Cours d'éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 6 novembre 89.
Un cours entre deux, puisque certains avaient posé la question pourquoi on ne commence pas tout de suite par l'éthique chrétienne et qu'on fait une éthique humaine. Est-ce que l'éthique humaine est-elle abstraite par rapport à l'éthique chrétienne? C'est pour vous montrer que dans tous nos actes surnaturels, l'humain est présent. Vous ne pouvez pas faire des actes purement surnaturels. Parce que votre substance reste une substance humaine. Votre âme est créé par Dieu. Il est d'ordre naturel. Il n'y a pas il ne peut pas y avoir un surnaturel participé substantiel. C'est contradictoire. Donc le surnaturel pour nous est toujours second. Et il s'enracine dans la pâte humaine. C'est la greffe, c'est le levain. Alors quand vous mettez du levain sur la pâte, vous savez ce que ça fait. Hein? Pas grand-chose. C'est le concours des deux. Et il faut que tous nos actes les plus surnaturels impliquent un support humain. C'est toujours l'homme qui agit. C'est toujours l'homme qui agit volontairement. Connaître ce que c'est que le point de vue éthique humaine pour pouvoir comprendre l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne. Mais il est évident que dans ma vie, je ne vais pas dire hein, jusque 10h du matin, éthique humaine. À partir de 10h du matin, je suis un peu plus réveillé, éthique religieuse, jusqu'à 4h de l'après-midi. À 4h de l'après-midi, éthique chrétienne. Non, c'est pas successif. Dès que vous vous réveillez, même quand vous dormez, c'est l'éthique chrétienne. Puisque vous vous êtes endormi à l'heure de l'obéissance. Si vous vous endormez à l'heure qui n'est pas l'obéissance, votre sommeil n'est plus chrétien. Que vous mangiez, que vous dormiez, que vous buviez, glorifiez le Seigneur. Faites-le dans l'obéissance. Ça. Et c'est vrai, ça. Alors, quand vous vous réveillez et vous voulez commencer une journée de chrétien, de religieux, tout de suite faites un acte qui est un acte chrétien et en même temps se réveiller d'un acte humain. Tout le chrétien enveloppe tout le chrétien enveloppe l'humain, le porte, le transforme, mais ne le détruit pas. Et donc dans toute la coupe histologique de vos actes de chrétien, vous retrouvez l'éthique humaine. C'est pour ça que ce que nous faisons n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose d'actuel dans notre vie. Et nous devons le rejoindre. Ça, c'est très important. Pour comprendre que ce que nous faisons, cet effort-là, c'est d'approfondir notre vie chrétienne. En approfondissant notre vie humaine. Plus vous deviendrez lucide, je ne dis pas, vous voyez, intelligent au grand sens. Ça ne veut pas dire aimer les cours. Non. Intelligent dans le sens, perception d'intelligence. C'est quelque chose qui nous aide à être plus profondément chrétien. Ça c'est sûr, on est plus lucide. Mais pas les raisonnements, vous voyez. La lucidité de l'intelligence, l'intelligence dans ce qu'elle a de plus pur. Tandis que les cours mélangent toujours le rationnel, le logique et l'intelligence. Forcément. Puisque tout mon mode de connaître est rationnel. Alors maintenant, continuons et reprenons. Je vous ai fait, si vous vous souvenez bien, l'analyse de l'amour d'amitié. Et j'ai vu tout ce qui était contenu dans l'amour d'amitié. Alors, ce qui serait très intéressant, je ne vais pas le faire, mais faites-le, j'avais fait l'année dernière. Je dis ça simplement pour ceux qui n'ont pas suivi le cours l'année dernière, et pour ceux qui l'ont suivi, pour qu'ils le comprennent mieux. Il faudrait maintenant essayer de comprendre tous nos actes volontaires. Faites l'inventaire de vos actes volontaires durant votre journée, durant le mois, puisque pas nécessairement dans la journée, faites tous vos actes volontaires. Prenez, bon, je me lève, ben, j'entends le réveil. Ou c'est un frère qui a la charité de me réveiller. Parce que je ne me réveille pas quand le réveil sonne. C'est plus fort que moi, je le renvoie promener. Un frère, c'est plus difficile. Alors, il y a des frères qui ne peuvent se réveiller que par un frère qui vient de les réveiller. Le réveil, c'est pas suffisant. On est de mauvaise humeur à l'égard du réveil. Vieille inimitié entre le réveil. Tandis que quand si un frère vient taper, ah, c'est différent, c'est autre chose. Bon, tous vos actes de la journée, l'inventaire des actes volontaires. J'aurais dû vous dire ça déjà la dernière fois. Et voir si tous ces actes volontaires sont impliqués dans l'analyse de l'amour d'amitié. Et vous faites l'analyse descriptive de l'amour d'amitié. Nous avons vu l'amour premier, l'intention. Puis nous avons vu le conseil, le choix, l'imperium, l'usage. Union affective, union effective. Alors, est-ce que tous mes actes volontaires sont contenus dans cette analyse? Si je dis que l'expérience de l'amour d'amitié de ma philosophie éthique. Il faut donc que l'analyse de l'amour d'amitié me donne tous les actes. Alors vous allez tout de suite me dire, mais l'obéissance, oui. Nous avons situé l'obéissance ici, en ce sens que cet imperium est mon fruit personnel ou c'est quelqu'un d'autre. Mais voyez, l'obéissance, je ne traite pas de l'obéissance dans une éthique personnelle. Ce sera dans l'éthique communautaire. Il faudra voir l'éthique communautaire, c'est bien évident. Alors, le devoir. J'inscris quelques-uns et puis vous y penserez. Pour Kant, pour des quantités de bons chrétiens, des quantités de bons chrétiens, chrétien sympathique, c'est merveilleux, excellent chrétien. L'éducation chrétienne consiste à mettre dans la tête du petit bonhomme ou de la petite bonne femme qu'elle a des devoirs. Elle a des devoirs. Il ne faut pas tout le temps jouer, quoi. Il y a des devoirs. Tu as des devoirs à faire. et même des devoirs de vacances, ce qui est excellent. Est-ce que tu as fait ton devoir? Est-ce que tu l'as fait? Ah, faut pas t'endormir sans avoir appris ta leçon. C'est ton devoir. Puis quand on se met au repas, on n'aime pas la soupe ou ça de la soupe. Oh, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça. Tu dois la faire. Tu dois. Il faut que tu la prennes. Si tu prends pas ta soupe, pas de dessert le soir. Ça, ça fait partie d'un certain soi-disant de l'éducation chrétienne. Mais c'est très bien. Alors vous venez de mettre ça. Vous dites l'amour. Et lui dit devoir. Alors il y a une troisième morale. La morale de la jouissance. La morale des vacances. Ah, des vacances. Moi, je suis pour la morale des vacances. Tout le temps en vacances, on éduque vraiment les vacances. Saint Jean éducation, on les prend en vacances. Ça vaut mieux, c'est plus facile. Parce que pendant les vacances, on peut les avoir entièrement. Pendant l'année, on les enseigne au lycée, au collège, ça ne va pas du tout. Ils sont fatigués. Les vacances, on va les éduquer parfaitement. Vous voyez ? Donc, la morale des vacances, l'éducation des vacances. Tout ça, il faut y réfléchir. Alors, le devoir. Est-ce que, ici, je parle du devoir? Est-ce que le devoir est irréductible avec l'amour? Vous voyez, ça c'est une question très intéressante. Morale de l'amour, morale du devoir. Morale de la jouissance. Morale des vacances, morale de l'année scolaire. On divise en deux. Et dans la vie religieuse, c'est tout le temps des vacances. C'est tout le temps le temps de sérieux. Parce qu'on récite l'office tout le temps. Et tu dois y aller. Pendant les vacances, on peut se libérer un peu quand même. Hein, pour réciter l'office aux extrémités du jour. Les vacances, on voit très bien. Le port de l'habit, c'est sérieux. On ne peut pas s'en libérer un peu. Morale des vacances. C'est très, très curieux, mais c'est très intéressant de voir ça. De voir que, comme on a de la peine à regarder l'unité de l'homme. Parce qu'on a commencé comme ça, voulez-vous. On a tous commencé. À un moment donné, ça a commencé quelquefois très jeune. Tu iras à l'école, tu dois y aller, tu dois travailler, puis tu auras des vacances. Et le temps des vacances, c'est autre chose, c'est la famille, c'est les amis, c'est les scouts, c'est le temps des vacances. C'est Jean-Emmanuel, c'est quelque chose de merveilleux, c'est le temps des vacances. Puis après, on quitte ça, et puis on tombe dans le point de vue de la scolarité. Alors, le devoir. Imperium. Tu dois faire ça. Donc, le devoir, il est ici. Si vous comprenez bien l'imperium, c'est la morale du devoir. À l'intérieur de l'amour. Parce que avant le devoir, il y a l'amour. Qu'est-ce qui finalise le devoir? Qu'est-ce qui finalise le devoir? Mais une personne qu'on aime. Les parents, très souvent, ça me ferait plaisir d'une bonne note. Ça me ferait plaisir que tu travailles bien. C'est comme ça, hein, au début. C'est comme pour la soupe. Une cuillère pour maman, une cuillère pour maman. C'est net. Vous voyez, le devoir conscience affective, c'est la prudence. J'ai conscience de ma responsabilité. Je me suis engagé. J'ai dit oui. Mais donc, elle est tout le temps présente. Alors, on peut faire un chapitre particulier sur la conscience, mais c'est l'intervention de l'intelligence dans le point de vue de l'amour. C'est l'intelligence qui est source de conscience. C'est l'intelligence qui est consciente. Donc la conscience, vous voyez, connaissance de soi, conscience de soi, morale de Socrate. Alors réfléchissez sur tous les actes qui vous semblent des actes qu'on doit étudier en éthique, parce qu'ils sont volontaires. Tout acte volontaire. Découvrirai une finalité. comme ça éternellement, ce sera fait. Et je n'aurai pas le poids du jour. Oui, je prends cet exemple-là. Il y en a des quantités d'autres. On sait bien qu'il faudrait choisir tel moyen pour se donner un peu plus de courage. Après tout, on remet ça demain. On verra demain. Je serai de meilleure humeur demain. Ça ira mieux. Il y aura un tel qui arrivera, s'y mettra. Mais le passage de l'intention au choix, constamment, c'est là qu'il y a liberté. Alors, imaginaire et passion. Le passage du choix à l'imperium. Chez les intellectuels. Les intellectuels arrivent encore à choisir, mais passer à l'imperium, oh non, surtout pas. Parce qu'ils ont une sainte horreur de l'autorité. Dès que l'autorité apparaît, il n'y a plus rien. Oui, c'est un fait, ça. L'intellectualisme en France, en Hollande, en Belgique, en Italie, en Espagne, fait qu'on n'aime pas l'autorité. On l'évite à tout prix. Et donc, on n'aime pas que soi-même, on se donne un commandement. Fais ceci. Non, non, il ne faut surtout pas ça. Non, non, il faut mieux attendre. Vous voyez, que le fruit tombe tout seul. Il vaut mieux, plutôt que de se décider à dire, bien, fais ceci. Non, on aime mieux attendre le moment opportun. C'est un certain dilettantisme intellectuel qui est très enraciné en nous. Ça. Je sais que j'ai tel ou tel penchant, telle ou telle difficulté. Eh bien, tant pis, laissons. On remet toujours à demain. J'ai une lettre impossible à écrire. Ah là là, c'est très difficile. Non, aujourd'hui, je suis pas. Non, non, ça va pas. Puis le lendemain, oh, ça va pas encore. Puis on attend. On rejette. Oui. Toutes les choses un peu difficiles au point de vue du choix. On ne passe pas à l'imperium. L'imaginaire passionnel. Et quelquefois, non seulement on attend, mais on fait beaucoup mieux. On va contre des complicités. On écoute un ami, quelqu'un qu'on aime bien et qui ira dans notre sens. Mais non, ne fais pas ça, c'est idiot. Oui, on écoute. On écoute la sirène. On écoute le serpent. Fais pas ça. Tu ne seras plus libre, tu fais ça. Faut pas t'enchaîner comme ça. Mais ne sois pas scrupuleux. Mais non, c'est parce que prends un peu de liberté quand même. Le noviciat, ça passe. Et puis cet été maintenant, il faut quand même un petit peu. Regarde, les frères aînés ne font pas ça du tout. Ça, c'est le noviciat. C'est le tunnel du noviciat. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors, on entend les sirènes, l'imaginaire et les passions. C'est très important de détecter dans notre vie l'important de l'imaginaire et des passions. Je vous dis, ce sont des déviations. Il faut prendre des routes qui ne sont pas du tout la route la plus droite, qui ne sont pas du tout la voie express. On ne dit pas non, mais on aime mieux quand même. Attendre un peu, quoi. L'imagination et les passions. Je crois que ça, c'est facile à constater. On a tous cette expérience-là. Si vous ne l'avez plus au noviciat parce que vous êtes converti, ça reviendra. Vous inquiétez pas. Ça reviendra. Et vous l'avez eu avant. Parce que votre imaginaire n'est pas mort parce que vous êtes au noviciat. Vos passions ne sont pas mortes non plus. Elles peuvent être baisser, diminuer. Sous couveuse, c'est possible. Pour noviciat, fait que les passions inclinent un peu la tête en disant « Attendons la fin. Soyons sérieux jusque-là. Après, on se rattrape. Morale. l'information. Et ceci se fait par des actes. Bon. Qu'est-ce qui est à l'origine des vertus ? Ce sont des actes bons. Qu'on répète. Je sais que je suis fragile. Par exemple, du côté de l'orgueil. J'ai une propension à l'orgueil. Là, je ne blesse personne, parce que nous l'avons tous. Nous avons une propension à l'orgueil. Où est-ce que ça se situe, l'orgueil ? Sur ce tableau, hein. Où est-ce que ça se situe ? Je n'ai pas montré. Hein. Qu'est-ce que vient vers l'orgueil ? L'orgueil exalte l'intelligence au détriment de l'amour affectif. Et je veux que l'intelligence domine. Donc l'orgueil, ça peut jouer ici. Je n'écoute aucun conseil. Je sais que je suis orgueilleux. Et je ne veux écouter aucun conseil. Je veux tout déterminer moi-même. Peu importe ce que les autres disent. Donc c'est l'orgueil qui vient empêcher le choix en vue de la finalité. L'orgueil, c'est l'exaltation de soi. Et donc ce conseil orgueilleux qui exclut tous les autres va me faire choisir quelque chose qui est uniquement exaltant pour moi-même. Et pas du tout en vue de telle ou telle finalité, ma finalité que j'avais choisie. Et l'orgueil s'infiltre et vient m'empêcher d'avoir un choix objectif. Je choisis les petits copains. Alors que je sais qu'il y a quelqu'un de très compétent à côté. Je ne veux pas l'entendre. Qui ferait beaucoup mieux. Non, non. C'est pas un ami. Il va m'humilier constamment pour me montrer qu'il est plus intelligent que moi. Je me souviens, c'était à l'université, quand il s'agissait de choisir un professeur. Oh, surtout, ne choisissons pas quelqu'un de trop brillant. Parce que ça nous fera tort. C'est l'orgueil, ça. Ou la grosse vanité. Alors qu'on devrait dire, quel sera le bien des étudiants ? Et c'était dit comme ça. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez ? Là, on voit très bien la différence. C'est facile de faire un petit examen de conscience dans ce domaine-là pour s'apercevoir que l'orgueil est là constamment. Pour nous empêcher de choisir ce qu'on devrait choisir par orgueil, ou par concupiscence, ou par vanité. On voit très bien les passions, l'imaginaire, l'exaltation de l'intelligence, le gros imaginaire de la vanité, la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf. Je veux à tout prix percer que je sois le plus intelligent des étudiants et d'une officielle. Je rêve là-dessus. Je me laisse exalter là-dessus. Il ne faut pas grand-chose. Un tout petit peu. Je suis sur la bonne pente. Ça va. Alors, je m'enorgueille. Et je choisis en fonction de ça. C'est très subtil, hein, mais c'est constant, ça. Alors, il faut faire des actes particulièrement forts d'amour pour que mon choix soit en vue du bien que je veux acquérir, en vue de la personne que j'aime. Je suis suffisamment lucide pour m'apercevoir de ça. Et si je ne m'en aperçois pas du tout, je demande à quelqu'un qui me connaît, qui m'aime. des actes positifs, bons, c'est-à-dire en vue de la fin, en vue du bien que j'aime, en vue de la personne que j'aime. Je fais des actes bons. Et ces actes se répétant vont me permettre d'acquérir des habitus, des déterminations qui poussent à l'intérieur et qui me permettront de poser des actes bons. C'est pour ça que ces habitus, en réalité, sont des vertus. Et qui me permettra de poser des actes bons. Et alors, j'aurai acquis à ce moment-là un acte volontaire. Un acte qui va engendrer en moi une certaine vertu, un prix. Et c'est comme ça que va naître en moi les vertus. Alors, quelles sont ces vertus? Je dois essayer de comprendre. Ce sera dans la volonté. La justice. Dans les passions. Les passions interviennent ici, au niveau du choix, du conseil. Les passions interviennent aussi entre le passage de l'amour premier et l'intention. Qu'est-ce qui va me permettre alors de bien choisir, de rectifier mon intention et de faire que mon choix me conduise à l'impérium et que l'impérium puisse vraiment réaliser ce qui a été décidé. Ce sera la vertu de prudence. La vertu de prudence reçue dans l'intelligence pratique affective. Et la vertu de prudence viendra me fortifier dans mes actes d'intention, de choix, d'impérium. La prudence regarde tout ça. Elle vient régler tout ça. Et puis, j'ajoute, il y aura des vertus qui vont cohabiter dans les passions. Ce sera les vertus de tempérance. Ce sera les vertus de force. Et l'empêcher immédiate, bête, parce qu'elle est contraire à la raison. On veut qu'il y ait quelque chose qui prolonge l'intelligence jusque dans les passions. C'est cette rectification profonde que fait la vertu. On peut en avoir une certaine expérience. Et quand on a été, par exemple, on s'est laissé aller à la colère, c'est l'irascible. Quand on se laisse aller à la colère, qu'est-ce qui va nous permettre d'acquérir la force? C'est justement la prudence qui va m'éclairer. Ne te mets pas dans cette situation. Tu sais bien que dès que tu es dans cette situation, tu fais des boulettes et tu te mets en colère. On a quand même une petite voix intérieure qui nous dit ça. Sans être une voix divine, c'est la voix humaine, c'est la voix de la tempérance. Et la voix de la tempérance, c'est la voix de la force. Ne vous laissez pas prendre dans des situations qui vous mettront en colère. On l'a vu plusieurs fois. Et donc, on sera capable de faire tout un détour pour ne pas se mettre en colère. On sera capable d'éviter telle ou telle conversation pour ne pas se mettre en colère. Dès qu'on aborde tel sujet, oh, la moutarde me monte au nez, puis je me mets à dire des paroles que je ne dirais pas autrement. Alors, j'évite. Je sais que ce sujet est tabou. Je le reprendrai plus tard. Mais maintenant, c'est impossible. Et on a tous ces sujets comme ça. On appuie sur une pédale, oh là, ça y est, ça monte. Et quelquefois, on est un peu méchant en vie commune, parce qu'on sait qu'un tel, c'est ça, l'horripile. Hein? Alors, on remet dessus, ça, tout de suite, immédiatement. On jette de l'huile sur le feu, puis ça, chaque fois, ça marche. Et on le met en colère. Fraternellement, c'est toujours très intéressant de voir un frère qui se met en colère. Ça, c'est quand on aime un peu la côte sauvage, c'est un peu ça. C'est un orage, ça, on le voit venir. C'est pas très charitable aussi. C'est peut-être très intéressant, mais c'est pas très charitable. C'est très intéressant parce que c'est quand même un beau spectacle. Mais c'est sur le dos de nos frères, là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. Vous voyez, et la prudence m'empêche de le faire. Par charité pour mon frère. C'est ça, je ne veux pas mettre mon frère dans cette situation qui fait que je sais qu'il se mettra en colère. Je connais le déclic. Donc, ces vertus, et on l'appelle cardinales, parce qu'elles sont fondamentales. Cardo, le gond qui tient la porte. Alors, c'est ce qui tient la route, ce qui me fait tenir la route. Ça me fait tenir la route en ligne droite vers ma fin. La vertu fait tenir en ligne droite vers la fin. Et les vertus cardinales sont donc fondamentales. C'est là-dessus que tout l'édifice des vertus va reposer. C'est très important. Vous voyez, il n'y a pas de vertu.